Madame et messieurs, bonjour, bonjour à tous et surtout merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à l'écoute de votre traditionnelle émission « C'est nécessaire la une ». Une émission sur Radio Gabon pour vous informer sur la dynamique de la sécurité sociale au Gabon, essentiellement sur son fonctionnement et ses différentes prestations. La sécurité sociale qui, comme vous le savez, est un instrument de stabilité sociale, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, en phase avec la politique de solidarité nationale initiée par les plus hautes autorités de la République gabonaise. Bref, pour ce 22e numéro de C'est nécessaire la une, avec nous dans ce studio, M. Marius Koko Mamwaka. C'est le chef de service chargé du contrôle des prestations sociales. Monsieur Marius, bonjour.
Bonjour, Omia.
Alors, Monsieur Marius, avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la question des prestations familiales. Quelles sont les personnes concernées par cette disposition, les conditions d'obtention des suspensions et autres problématiques autour de cette question? Toutes les réponses vous seront apportées par notre cher invité. Monsieur Marius, qui, je vous signale, n'est pas seul. Toutes ces interventions seront bien sûr placées sous le contrôle bienveillant de Madame Flavie Raviré, qui est chef de la division contrôle des prestations techniques à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cela dit, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Monsieur Marius, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous sentez bien ?
Bien, merci.
D'accord. Alors, peut-être d'abord essayer de nous définir ce qu'on entend par prestation familiale, puisque c'est notre sujet du jour.
Et je vous remercie, Monsieur Romuald Koumba. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur la définition de la sécurité sociale.
Allez-y.
La sécurité sociale peut se définir comme un ensemble de droits pécuniaires et en nature qui ont pour objet de garantir la sécurité économique d'un travailleur et ses proches, tous exposés aux risques sociaux. On attend par risques sociaux la maladie ordinaire, c'est-à-dire n'importe quelle maladie qui n'a pas de rapport avec ce que l'on fait en milieu professionnel et tout, qui peut justement empêcher de se rendre à son lieu de travail. Les maladies professionnelles donc liées à l'activité qu'on fait et les accidents de travail. Donc l'âge, par ailleurs la vieillesse, la maternité et la charge familiale. Certes, le chômage aussi fait partie des risques sociaux, mais malheureusement, il n'est pas encore mis en exergue en Afrique.
D'accord, ok.
Mais non, en Afrique et particulièrement au Gabon, ces risques sociaux sont organisés en trois branches. Il y a la branche des risques professionnels qui regroupe les maladies et les accidents de travail, la branche des assurances de vieillesse que nous appelons communément la retraite et avec sa cohorte de prestations de réversion aux veuves et aux orphelins. La branche des prestations familiales qui comprend la maternité et la charge familiale, ce sont ces trois branches qui ouvrent droit aux prestations techniques que la CNSS met en musique par le truchement du département des prestations techniques.
Voilà. Alors, quels sont justement les différents types de prestations familiales?
On va commencer par la plus proche. La plus proche, c'est l'APN1. L'APN1, c'est allocation prénatale numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en contrepartie de la grossesse de 3 mois. C'est-à-dire que les prestations sont servies justement à la CNSS à partir justement de ces 3 mois de grossesse.
Bien.
Il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait un acte de naissance pour passer à la CNSS pour pouvoir demander à voir ses prestations.
D'accord.
Maintenant, pour les raisons de gestion, il est toujours mieux d'apporter et l'acte de naissance et les différentes grossesses et tout pour qu'on vous paye de manière globale.
D'accord. Voilà. Alors, je vous signale, mesdames et messieurs, que cette émission est interactive. Appelez au 07 113 25 00 si vous voulez participer. Vos questions seront bien évidemment prises en compte dans la dernière partie de notre émission, la question de l'auditeur. Alors, nous allons poursuivre avec Monsieur Marius. Dites-nous finalement quelles sont les personnes qui sont essentiellement concernées par cette rubrique des prestations familiales.
Mais bien avant, malheureusement, on n'a pas cité l'ensemble des prestations et tout.
Oui, allez-y.
C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de 7 prestations au niveau de la branche des prestations familiales. Il y a l'APN1 qui équivaut à 3 mois de grossesse. C'est-à-dire que lorsqu'on présente le certificat de grossesse de 3 mois, on peut être à même justement de servir sa prestation. La deuxième, l'APN2 qui équivaut à 6 mois de grossesse. La troisième, l'APN3, c'est ce qu'on appelait antérieurement le bon de l'aide. Donc c'est une prestation qu'on donnait en nature. Mais désormais, en fait, il y a un forfait de 45 000 qui a été accordé pour permettre justement à chaque usager d'aller choisir librement. Après l'APN 3, et l'APN, l'APN, donc la prime à la naissance. Après la, la prime à la naissance, il y a chez les femmes salariées les indemnités journalières. Il faut qu'on revienne effectivement sur ceux-là qui ont droit aux APN 1, 2 et 3. Chez une femme salariée, elle peut tout avoir plus ses indemnités journalières, c'est-à-dire le droit du travail, justement, donne une période à laquelle elle doit observer un petit repos avant, justement, la reprise. Donc, et elle a droit à ses prestations. Mmh. Maintenant, la femme du travailleur salarié, le travailleur du salarié, a aussi droit, mais jusqu'à la prime à la naissance. Elle n'a pas le droit à, aux indemnités journalières, donc au congé de maternité, allais-je dire. Maintenant, après les congés de maternité, il y a éventuellement les allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire, en fait, qui est une conséquence des allocations familiales, mais on ne peut les percevoir qu'à partir de 6 ans.
Alors, dans les prestations familiales, on venait justement de parler des indemnités journalières que bénéficient les femmes, celles qui sont en grossesse et qui doivent bénéficier donc des congés de maternité. D'abord, que dit la loi à ce sujet?
En matière des indemnités journalières, on a l'article 52 du Code de sécurité sociale et même par le truchement de l'article 53 qui donne justement la responsabilité du département des prestations familiales parce qu'en fait, entre la charge familiale et la maternité, il y a une différence. Parce que la charge familiale gère beaucoup plus les enfants. Mmh. Et la maternité, c'est juste les prestations prénatales et les congés de maternité. Mais la loi, justement, donne la latitude au département de prestations familiales de gérer aussi cette prestation.
À quel moment cette dame doit-elle arrêter de travailler, cette dame en gros?
C'est une question vraiment très intéressante. Donc, il y a entre la CNSS et le médecin traitant. Il peut ne pas être de la CNSS, il peut être partout ailleurs, même à l'étranger. Un certificat de grossesse. Sur chaque certificat de grossesse, il est toujours indiqué une date probable d'accouchement. Une date probable d'accouchement. Ouais, donc, ça peut être cette date
ou pas. Parce qu'effectivement,
et c'est justement à partir de cette date que l'on détermine les 42 jours avant. Parce que les indemnités journalières s'étalent sur 98 jours. Donc, 14 semaines. Donc, 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Et elle est, le repos est déterminé à partir de la date de cessation.
Est-ce que cette femme est automatiquement informée? Parce qu'il y en a qui dépassent souvent les délais prévus par le code.
Mais vous
est-ce
savez,
qu'elle peut bénéficier encore des
vous savez très bien que la sécurité sociale, en fait, c'est un pan du droit du travail. L'article 171 du code du travail nouveau régule bel et bien cette prestation. Donc, elles devraient le savoir dans leurs administrations. Mais maintenant, pour celles qui ne savent pas, le plus souvent, les employeurs les envoient à la CNSS essayer de savoir quelle est la conduite à tenir et nous le leur disons. Voilà.
Oui, alors donc, justement, celle qui aura dépassé le délai prévu par la loi, est-ce qu'elle sera payée?
Bon, pour nous, la loi s'impose à tous. L'essentiel pour nous, c'est qu'on dépose un dossier avec toutes les pièces nécessaires et nous l'étudions. Si elle remplit les conditions, ben nous liquidons sa prestation. Voilà.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que la CNSS n'attend pas la naissance de l'enfant pour procéder aux prestations. Est-ce que, justement...
Non, pas forcément.
Oui.
Pas forcément. Mais bon, malheureusement, nous ne sommes pas encore au moment où il faut parler des pièces à remplir par rapport à chaque prestation.
Oui, nous allons y revenir, bien sûr.
Mais de toutes les façons, quand on est en grossesse de 3 mois, si vous voulez simplement qu'on vous paye votre prestation, surtout pour les travailleurs célibataires, parce qu'en fait, les prestations, en fait, se donnent à la CNSS en fonction du genre et du statut matrimonial, justement, du travailleur, donc de l'assuré, allais-je dire non. Et généralement, quand la concubine a 3 mois de grossesse, malheureusement, elle n'est pas connue dans notre fichier. Voilà, dans notre fichier. Donc, on fait faire au couple une reconnaissance de paternité. Et ça, c'est l'assistante sociale ou les autorités administratives, en fait, qu'ils font. C'est un engagement, justement, que le monsieur prend, qui vient à la CNSS pour nous dire cette grossesse, en fait, c'est moi qui suis à l'origine. Donc, nous, on prend ce document, plus son acte de naissance, copie légalisée, sa carte d'assuré, ben nous, on liquide la prestation. Le plus souvent, il est mieux d'attendre quand l'enfant naît et qu'un acte de naissance est produit pour nous permettre de le faire de manière globale.
Est-ce que vous enregistrez de nombreux cas comme ça?
Oui.
Alors, il y a un certain nombre de parents qui ont vu leur prestation suspendue dans votre institution. Des parents à qui ont demandé des certificats de non-perception quand le couple, par exemple, n'est pas dans le même régime de protection sociale.
Oui, on va dire, selon l'article 43, alinéa 5 du Code de sécurité sociale, Les prestations sont dues à l'un des parents qui a une situation sociale plus avantageuse que l'autre. Donc, ça voudrait dire, pour un couple où la mère travaille à fonction publique, par exemple, et le père dans une société privée affiliée à la CNSS, il serait souhaitable, en fait, que la mère, parce qu'elle a un traitement de faveur, prenne en compte l'enfant. Mais qu'à cela ne tienne, généralement, le père peut décider de déclarer son enfant. Mais quand il déclare l'enfant, alors que nous, on donne en fonction des professions des parents. Si le parent a une profession pour laquelle il exerce la fonction publique, on est dans l'obligation de demander le certificat de non-perception. Et c'est courant. Dans les services de la sorte, vraiment, ils sont tellement embêtés parce que de temps en temps, ils y passent. Okay. Et tout ça, c'est pour lutter contre le double emploi. Mmh. En fait, dès lors que nous sommes en République gabonaise, en fait, les prestations sont données au seul enfant. Mais il ne peut pas bénéficier des deux parents, malheureusement. Alors, sauf si les parents prennent des prestations privées.
On en a quels sont les éléments que vous avez, les outils pour pouvoir contrôler tout ça? Parce qu'il y en a qui peuvent passer dans les mailles du filet.
Non, le plus important pour nous, c'est simplement que l'autre parent nous amène le certificat qui nous permet justement d'ouvrir le droit au niveau de la CNSS. C'est tout. Mmh. Voilà. Alors, c'est la principale garantie pour nous. Maintenant, si entre autres, il y en a qui s'adonnent à des telles pratiques, bon, libre à eux de répondre en cas de...
Voilà. D'accord. Alors, quels sont les enfants, justement, qui sont concernés par le régime de prestations sociales?
Oui. Permettez que je prenne l'article 46.
Allez-y, documentez-vous.
Voilà, le document technique qui fait couler tout l'encre dans la République. Voilà. Article 46. Les allocations familiales sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à sa charge depuis la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans révolu. Parce qu'effectivement, la scolarité en République gabonaise est consignée jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est obligatoire. Maintenant, ouvre droit aux allocations familiales les enfants qui sont sur le territoire national. C'est-à-dire qu'en dehors du territoire national, on ne peut pas payer les allocations familiales. Si on peut contrôler au Gabon, par le truchement des certificats de scolarité et médicaux, malheureusement, on ne peut pas aller le contrôler ailleurs qu'au Gabon parce que ça va nécessiter beaucoup de moyens. Donc, on ne paye que les allocations que pour ceux qui sont sur le territoire national. Pour des nationaux et des étrangers qui sont salariés et affiliés au régime du secteur social géré par la CNSS. On ne fait pas de différence.
Ça, c'est le principe de territorialité. Aux parents qui peuvent déclarer que leur enfant est vivant, il y a le certificat de vie, non?
Oh, vous savez, la précarité parfois dans laquelle nous vivons nous amène à faire des calculs parfois indécents. Voilà.
Ok, d'accord.
Voilà. Donc, en dehors, ça, c'est le principe de territorialité, mais on doit continuer. Les enfants des mariés, un couple marié déclare tous les enfants, à condition justement que de l'autre côté, que l'un des parents justement soit fourni le certificat de non-perception ou que les deux soient affiliés dans le même régime parce que nous avons la possibilité de contrôler. Les enfants des mères célibataires salariées, les enfants que la femme de l'assuré a eu d'un précédent mariage lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou judiciairement prononcé. Des enfants ayant fait l'objet de l'adoption, des enfants adoptés. Mais l'assuré, justement, qui doit déclarer les enfants adoptés, doit être obligatoirement marié. Si l'assuré n'est pas marié, on ne peut pas prendre en compte, malgré le certificat d'adoption qui a été déposé. Donc, la limite d'âge est portée à 17 ans pour les enfants qui sont en apprentissage dans des établissements professionnels, mais à 20 ans s'ils poursuivent normalement leurs études. Voilà.
Tout ça, c'est tout ce que la loi dit sur les enfants qui sont concernés par le régime de prestations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, qu'en est-il justement des autres enfants, des enfants non scolarisés ou des enfants qui sont déficients moteurs? Est-ce qu'ils sont également pris en compte?
Non, eux, également, ils sont pris en compte. Donc, mais généralement, il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui ne se rapprochent pas de la CNSS pour avoir l'information. Pour les enfants déficients moteurs, de toutes les façons, c'est la nature qui l'a bien voulu. Mais ils sont à la charge des parents. Et le plus souvent, ils pèsent même plus que les autres enfants et tout. Nous, on paye les prestations contre la présentation d'un certificat de non-scolarité. Je vous dis qu'on a trois sortes de certificats. Il y a le certificat médical pour les enfants qui sont nés entre 0 et 6 ans. Les certificats de scolarité, les enfants de 6 ans jusqu'à 20 ans. Et les certificats de non-scolarité pour ces enfants déficients. Donc, on en tient compte.
D'accord. Alors, vous venez de parler d'un déficit en matière de communication auprès de ces usagers. Est-ce que, au niveau de la CNSS, vous avez des canaux de communication mis à la disposition justement des usagers?
Oui, via les dépliants. Et vous savez très bien que nous, les Gabonais, on n'aime pas lire. Généralement, les Gabonais n'aiment pas lire et ils n'aiment pas aller à la recherche de l'information. C'est pourquoi, justement, nous multiplions des stratégies pour pouvoir les avoir, parce que ce sont leurs droits, il faut bien qu'ils sachent.
Alors aujourd'hui, la CNSS dispose en tout cas des outils de certification. Qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée à votre service?
Alors, Je vous assure que c'est malheureusement pas à nous de juger, ce sont les usagers qui doivent juger des effets justement de la certification. Toutefois, en matière justement de la fluidité dans la circulation des dossiers et des délais de traitement, ben, nous-mêmes nous en sommes fiers parce qu'en fait notre objectif c'est mieux satisfaire nos usagers. Voilà.
Alors ça marche sur le plan interne?
Oui, ça marche bien.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos tâches dans le cadre justement de ces prestations familiales?
Alors, il y a plusieurs.
Mesdames et messieurs, appelez au 0713 25 00 si vous voulez prendre part à cette émission. Alors, Monsieur Marius, pour continuer notre discussion, peut-être d'autre part nous dire quels sont les secteurs d'activité qui sont actuellement gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale?
Oui, mais ça voudrait en d'autres termes nous demander en fait les conditions d'ouverture de droits au niveau des prestations familiales. Mmh. Pour bénéficier des prestations familiales et de maternité, il faut être assujetti à la CNSS.
C'est-à-dire affilié?
Être affilié à la CNSS, mais on est affilié par le truchement de son employeur. Maintenant, quels sont ces employeurs-là? Ce sont justement les employeurs du secteur privé, du secteur parapublic, comme la CNAMGS, comme la CNSS elle-même. Et puis à l'époque, on avait, c'est quoi la CNSS qui s'occupait du bois là?
La CNBG.
La CNBG. Et il y a la main-d'œuvre non permanente des institutions nationales et internationales. Mais beaucoup malheureusement ne savent pas. Il y a l'OMS, il y a les institutions de l'ONU qui viennent chez nous pour ceux-là qui n'ont pas le statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire national ou international. Il y a aussi les salariés des collectivités locales, assemblées départementales et les mairies. Il y a aussi par ailleurs les gens de maison. Je ne sais pas si vous avez une ménagère. Elle aussi a droit aux prestations au niveau de la CNSS. Il suffit simplement de l'affilier. C'est-à-dire que vous vous constituez en employeur. On vous donne un numéro d'affiliation à travers lequel vous affiliez aussi votre salarié. Elle peut être ménagère, elle peut être babysitter, elle peut être chauffeur, elle peut être jardinier, tout ce que vous voulez, mais vous avez jusqu'à 5 pour les gens de maison.
Vous avez dit tout à l'heure, la sécurité sociale a un coût, effectivement.
Au niveau des gens de maison, voilà, on a un forfait de 6 500 par trimestre et 26 000 francs pour toute l'année. C'est un forfait, mais que, malgré ce forfait, le niveau des prestations reste le même.
Et justement, voilà. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que le fait qu'il y a une certaine négligence de la part de ces employés,
bon, est-ce que parfois, la CNSS non, c'est parfois, ne va pas l'ignorance, au-devant? L'ignorance des employeurs ou bien l'ignorance des employés. Parce que la personne qui connaît ses droits peut de temps en temps rappeler à son employeur, bien son employeur aussi peut. Et puis malheureusement, il y a aussi un souci de suivi ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui effectivement sont dans cette situation, mais faute de moyens, ben, ils sont obligés de rester dans l'anonymat. Okay. Voilà.
Alors finalement, quelles sont les conditions de jouissance des prestations familiales?
Bon, autre justement, l'assujettissement par un employeur, parce que votre employeur doit être affilié à la CNSS avant que vous-même vous ne soyez affilié. Donc en dehors de cette condition, il y a la condition d'activité, parce qu'il faut jurer de 4 mois de travail successif pour pouvoir prétendre au bénéfice des prestations familiales. Et il y a aussi la condition de territorialité parce que les prestations familiales ont joué par rapport soit à la maternité ou à la charge familiale et tout. Comme je vous l'ai dit auparavant, les enfants doivent être sur le territoire national pour en bénéficier. Parce qu'on a les moyens de contrôle sur le territoire national, mais à l'extérieur, ça risquerait de nous coûter trop cher. Et puis, tout le monde n'est pas toujours de bonne probité aussi. Hein. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour ces parents qui ont des enfants?
Et puis, il ne suffit pas d'avoir les enfants pour bénéficier automatiquement justement des prestations familiales. Il faut effectuer une demande. Parce que nous ne sommes pas des policiers, on ne doit pas aller chez les usagers ou bien les travailleurs pour chercher à savoir s'ils ont des enfants ou pas. Ce sont eux au touchement d'une demande qui nous donne l'information selon laquelle ils ont des enfants. Maintenant, nous, on étudie les conditions justement d'attribution des prestations à ces enfants.
Et quel est le nombre d'enfants?
Bon, le nombre d'enfants, il est indéfini pour les mariés et pour la femme salariée. Mais pour nous, les célibataires hommes, c'est jusqu'à 6 par concubine.
Alors donc, quand c'est indéterminé, on peut avoir une équipe de football.
Si vous voulez.
D'accord, bien.
La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
Madame, messieurs, nous voici à présent dans la rubrique « La question de l'auditeur ». Notre opérateur nous signale qu'il y a déjà un peu plus de 5 questions. Monsieur Marius va nous apporter quelques éléments de réponse à la préoccupation d'abord de celle, la préoccupation de Monsieur Bivegou qui appelle de Libreville. Il dit, je cite, « J'ai déposé mon dossier à l'agence de Lambariné en mars 2012. Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Je voudrais savoir à partir de quel moment je dois bénéficier de mes prestations, Monsieur Marius.
Bon, c'est vrai que avant, il était difficile de savoir. Mais actuellement, avec les contraintes de la certification, nous avons des objectifs dans chaque département. Et l'objectif principal que nous mettons en exergue dans notre département, c'est le respect des délais. Donc, quand un dossier est rentré dans une agence de Lambariné, c'est qu'il y avait ce que
en,
nous...
En mars 2012,
il en mars 2012, nos collègues, conscients justement des objectifs qui nous sont assignés, mais doivent l'acheminer dans tout au plus les 2-3 jours qui suivent la réception. Et quand le dossier arrive à la direction générale, il est tout de suite pris en charge. Et nous, on a un délai de 45 jours pour pouvoir positionner la prestation. Et selon les échéances de paiement, ils peuvent attendre peut-être 2-3 mois après. Et puis voilà. Maintenant, si la prestation ne sort pas, ils sont à même de faire des réclamations.
Est-ce que cette situation ne nécessite pas les exigences de maintien de droit?
Merci. C'est une question vraiment très intéressante. Le plus souvent, beaucoup de personnes déposent leur demande et pour eux, quand ils reçoivent les prestations, c'est fini. Alors que, malheureusement, beaucoup ne consultent pas le code du secteur social. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que chaque travailleur devrait justement se faire violence pour avoir cet élément, parce qu'en fait, c'est cet élément qui lui donne le droit justement de réclamer un certain nombre de choses au niveau de la CNSS. Le monsieur a déposé son dossier en mars. Nous avons 45 jours pour pouvoir positionner sa prestation. Et donc, à la prochaine échéance, je crois de juillet, la personne doit rentrer dans ses prestations. Et ces prestations vont courir jusqu'au 31 décembre, quand bien même on paye 10 jours après, donc le 10 janvier. Toutefois, conscient justement de la mortalité infantile, c'est pourquoi justement la CNSS, prudente, a bien voulu qu'il y ait des certificats pour renouveler. Parce que ces certificats en fait ont valeur de certificat de vie. Mmh. Un certificat de scolarité, un certificat médical, bien sûr, un certificat de non-scolarité, puisque c'est forcément visé par soit un médecin ou bien un responsable d'établissement, font foi de certificat de vie. Donc, chaque année, entre la rentrée scolaire donc d'octobre au 31 décembre, ils doivent être à même de déposer cette certificat parce que ce sont ces certificats qui renouvellent les droits.
D'accord,
bon, maintenant, par ailleurs, par rapport au certificat, il y a une grande différence entre les certificats d'ouverture de droits. Quand vous êtes embauché 4 mois après ou bien dans n'importe quel moment de l'année, vous pouvez déposer votre demande sans problème. Mais en ce qui concerne les droits acquis, les droits déjà acquis, pour pouvoir les renouveler, il faut, selon l'âge des enfants, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, il faut déposer les certificats médicaux. De 6 à 20 ans, il faut déposer les certificats de scolarité, sauf si l'enfant n'est pas scolarisé, les certificats non scolarisés pour pouvoir renouveler les droits. Et si vous ne le faites pas, vous perdez justement le bénéfice des droits et vous attendez l'échéance prochaine.
Voilà. Alors, à la décharge justement de ces usagers qui n'ont pas forcément un code sécurité sociale en main, est-ce que quand ils viennent déposer, vous ne leur expliquez pas ça automatiquement, que voilà, la suite, ne vous contentez pas uniquement
de dépôt? Oui, mais c'est pourquoi justement la Caisse aujourd'hui se pose comme étant une institution de proximité. On a des agences partout, on a des délégations partout et la direction générale. Ici même, lors des périodes de paiement, il y a des techniciens qui sont affectés pour pouvoir répondre à de telles préoccupations. Et encore qu'on a, la DRC au moyen des contrôleurs qui visite les employeurs.
DRC, ça veut dire, il faut toujours expliquer.
La direction de recouvrement est contentieux.
Et d'accord.
Donc,
voilà.
Par le truchement des contrôleurs qui passent tout le temps visiter les employeurs et tout. Donc, par eux, on peut aussi avoir ces informations.
D'accord. Nous allons donc poursuivre.
Sinon, se référer au guide de CNSS ou... différents dépliants. Voilà, merci.
Bien, nous allons poursuivre avec M. Mbandon. Il appelle également de Libreville. M. Mbandon dit qu'il a plusieurs enfants dans différents établissements scolaires et universitaires et des centres de formation. Il aimerait savoir à quel moment va intervenir la cessation des prestations de ses enfants.
Je pense que implicitement, j'avais déjà répondu à cette question. Je disais tantôt que pour les enfants qui sont dans des établissements professionnels, ils ont jusqu'à 17 ans pour pouvoir jurer les prestations familiales. Mais pour ceux-là qui sont...
Vous avez dit 16 ans au départ.
17 ans.
17 ans.
Non, 16 ans, en fait, c'est une limite par rapport à l'obligation de scolarité au Gabon.
D'accord.
Mais nous, en matière de secteur social, on a ajouté un an de plus pour la formation professionnelle et pour les autres, donc primaires, secondaires, jusqu'à l'université, jusqu'à l'âge de 20 ans.
D'accord.
Parce qu'on suppose qu'à 20 ans, ben, on a l'université et on joue déjà d'autres prestations là-bas.
Voilà donc pour cette question. Et nous allons prendre une autre préoccupation, celle de M. Alphonse Mbumba. Il dit qu'il a deux épouses avec lesquelles il a eu des enfants. Il a aussi deux concubines. Bon, il veut savoir comment il doit constituer les dossiers de tous ses enfants.
Pour ces deux conjointes, c'est-à-dire qu'ils sont mariés à l'état civil, aucun problème ne se pose. L'essentiel pour nous, c'est simplement de vérifier si l'un des parents travaille dans une autre institution et tout. Dès lors qu'on a cette assurance, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Mais pour les concubines, le système à la CNSS, il est déclaratif. Il peut nous déclarer soit les deux concubines, et là, on sera dans l'indécision, parce qu'en fait, la loi l'autorise à ne déclarer qu'une seule concubine avec six enfants. Donc,
voilà.
C'est lui, justement, on va l'interroger pour qu'il nous dise laquelle des deux concubines doit-on prendre en compte.
Voilà. Nous allons, compte tenu du temps qui nous a été imparti, cette dernière question de Alphonsine Epiga, qui appelle de Mwanda dans l'Otogoué, elle dit qu'elle aimerait savoir la différence entre les prestations de la CNAMGES et celles de la CNSS.
Ben, c'est une différence qui est très simple. Pour avoir les prestations à la CNSS, il faut être salarié. Mais à la CNAMGES, c'est le social, ce sont des personnes
économiquement
faibles.
Mesdames et messieurs, les questions non abordées au cours de cette émission, et bien compte tenu du temps qui nous est imparti, il n'y a pas de problème. La CNSS se charge de vous donner des réponses hors antenne. Alors, monsieur Marius Coco, nous arrivons donc au terme de cette émission. Vous avez certainement un message particulier, un conseil ou quelque chose que vous n'avez pas pu dire au cours de cette émission comme conclusion.
Merci, monsieur Romain. Les prestations servies dans la branche des prestations familiales contribuent tant bien que mal à un léger mieux. Toutefois, il serait souhaitable non seulement de ramener l'allocation de rentrée scolaire à l'âge de 3 ans, parce que la scolarité au Gabon, malheureusement, elle commence tôt et d'ailleurs, elle nous coûte même plus cher, mais il n'y a pas de prestations qui suivent. Et par ailleurs, relever les prestations prénatales, mais surtout les prestations à la naissance, à un niveau substantiel. Je vous remercie.
Voilà, on dit merci à notre illustre invité, M. Marius Coco Mamouaka. Je vous l'ai dit, il est accompagné de Mme Flavie Raviré, qui est chef de la division contrôle de prestations techniques à la CNSS. On dit merci également à vous, chers auditeurs, à la réalisation Didier Makaya, devant ce micro, Romuald Koumba. À très bientôt pour une prochaine émission. CNSS à la une.
Caisse nationale de sécurité sociale, notre ambition, mieux vous servir.